Allez, merci, hein, je vais accueillir. Merci beaucoup. On va parler maintenant, Jérôme, de devoir de vigilance entre risques juridiques et crise réputationnelle. Comment les entreprises doivent s'y préparer? C'est une bonne question et je vais appeler sous vos applaudissements Arnaud Dupuis-Castérès, DG de Vae Solis Communication, et Patrick Plugman, avocat, que je vous demande d'applaudir. Prenez place à gauche et à droite. Il n'y a aucune connotation politique quand je dis à gauche et à droite. Vous avez bien compris. Aucune connotation politique. Ça tombe bien. Allez, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On a combien de temps là, à peu près, Jérôme, le maître des horloges?
20 minutes.
20 minutes, allez. On va commencer avec une première question très précise, messieurs. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies en janvier 2020. S'il vous plaît, continuez le débat. Vous pouvez peut-être le continuer au moment de la pause, si ça ne vous dérange pas. Donc, je vous pose la première question très précise. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, pardon, en janvier 2020, et un rapport de l'Assemblée nationale en février 2022 démontrent que la majorité des plans de vigilance des entreprises assujetties n'ont pas un niveau de détail nécessaire concernant les risques saillants envers leur supply chain. Que pouvez-vous préconiser? Qui prend la parole au début?
Oui, il y a eu ces deux rapports. D'abord, le Conseil général de l'économie. Il y a eu le rapport de l'Assemblée nationale qui venait évaluer l'application de la loi qui a été portée par Dominique Potier, la loi de 2017. Mais il faut aussi dire une chose, parce que là, je vois des sentiments de panique.
Ah oui.
Je vois de la crainte.
Aussi.
Donc on a à la fois... On a l'impression que cette loi dont on parle aujourd'hui, la loi française, c'est l'enfant terrible de l'effondrement du Rana Plaza en 2013 et de Jean-Jacques Rousseau. Mais depuis lors, depuis 7 ans, il y a eu, en tout cas en France, l'intervention un peu chaotique du juge. Donc maintenant, on a de la jurisprudence. Et quoi qu'on en pense... le juge, d'abord, on a dû estimer quel serait le tribunal compétent. C'était l'affaire Total Ouganda. Et puis, il y a eu, on va dire, une grosse vingtaine de mises en cause entre les mises en demeure et les décisions de juge, un peu plus. Une grosse trentaine d'affaires en cours entre mises en demeure, décisions de justice. Ça aboutit à quoi pour le moment? Une décision de condamnation en première instance frappée d'appel. C'est la décision qui concerne évidemment la Poste du 5 décembre 2023. Donc, calmons-nous. Certes, la loi française, elle a été pionnière. On peut dire que c'est horrible, on peut dire que c'est formidable, c'est un fait. Certes, cette loi a créé un champ de responsabilité par l'obligation d'avoir un plan de vigilance qui était impossible à appréhender. Certes, cette loi, elle devait être complétée par un décret d'application qui n'a jamais eu lieu, ce qu'ont pointé effectivement tant le Conseil général de l'économie que les députés un peu plus tard en 2022. Mais le juge a joué son rôle. Certains diront un peu trop strictement, d'autres en écartant souvent la recevabilité des actions en justice sur des questions de forme, de procédure. On a encore vu, ce qui est rarissime, le 28 mars dernier, un tribunal annuler une assignation pour manquement à l'obligation d'articuler un fait en droit. Donc le juge, il a joué son rôle, et maintenant on a à la fois l'émergence d'une jurisprudence, et vous avez également une juridiction qui est spécialisée maintenant, et qui a, dont on attend les premières décisions pour le 18 juin. Elle a jugé d'ores et déjà 3 affaires. Ce que je veux dire par là, c'est que on a très bien compris, tout le monde l'a dit, le fait, ça a été très bien exprimé, quel talent par Jérôme ici à la tribune, le fait de pouvoir taper la supply chain à n'importe quel stade était effectivement une obligation que les entreprises ne pouvaient pas satisfaire. Et qui était d'ailleurs infaisable à la base, tant pratiquement que juridiquement, c'est des personnes morales distinctes, etc. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a quand même recréé de la norme et ce qu'on voit émerger avec l'adoption de la directive européenne la semaine dernière, c'est que finalement, qu'on le veuille ou non, tout le monde joue son rôle et qu'on est face à l'émergence, effectivement, d'une nouvelle manière de produire, donc d'une nouvelle manière de contracter et donc également d'une nouvelle manière d'embaucher et de vendre. Et on n'aura pas le choix. À cet égard, finalement, le décret qui nous a manqué en France, et je vais aller très vite,
non, je vous en prie.
C'est un peu le Parlement européen qui a fait le job, puisque le Parlement européen, dans la directive, qu'est-ce qu'il demande ? Il dit, vous devez, vous, États nationaux, créer des autorités nationales qui vont devoir avoir les modalités pratiques pour permettre aux entreprises de respecter leurs nouvelles obligations. À la fois, elles créent, effectivement, ça a été dit, de nouvelles sanctions, mais elles demandent que, précisément, les entreprises puissent se défendre. Parce que c'est vrai qu'on était face à une contradiction majeure, et je la laisse en l'état, et puis j'entendrai ce que dit Arnaud, c'est qu'on est en train de rendre les entreprises brutalement des responsables des normes fondamentales, mais tout en les mettant en accusation sur une question que les libertés fondamentales peuvent questionner. Je vous signale que allons pas chercher très loin, on a l'Assemblée nationale, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle vous dit par exemple que vous êtes responsable que de votre fait, la personnalité des peines. Il faut donc, une loi pénale, c'est toujours d'interprétation stricte. Donc certes, ce n'est pas une loi pénale, mais quand même, on crée des nouvelles obligations extrêmement larges qui n'incombent pas aux personnes elles-mêmes, mais à toute une chaîne de personnes qu'elles ne connaissent pas forcément. Donc moi, j'ai très bien compris la réaction. Néanmoins, on bascule dans un autre monde. Il est là, il arrive, les outils sont en train d'arriver. Et encore une fois, le droit, le juge est en train de faire son travail. Donc de toute façon, c'est le nouveau monde. Live with it.
Mais vous comprenez l'inquiétude des chefs d'entreprise qui sont exprimés au cours de cette première table ronde, évidemment.
Je comprends l'inquiétude.
Mais vous voulez rassurant.
Encore une fois, si on garde l'application du droit à date en France, j'ai envie de dire que les entreprises, elles peuvent être extraordinairement rassurées.
Ce n'est pas la position du MEDEF. Hein.
Non, alors, mais la judiciarisation, excusez-moi.
Excusez-moi, alors... Cher Patrick, pour être un peu plus sur le... Elles peuvent être tranquilles. Bon, comme vous le savez, le 15 janvier 2024, la Cour d'appel de Paris a annoncé la création d'une chambre consacrée au contentieux émergeant du devoir de vigilance. Vous savez que le 5 mars de cette année, trois grandes sociétés du CAC 40 ont été assignées à la barre et que les éléments seront rendus le 18 juillet. On ne sait pas aujourd'hui... si on peut vraiment être rassuré sur un système concernant le devoir de vigilance qui se judiciarise. Donc, attention, on a eu le vote de la directive CSDD mercredi. Effectivement, chaque État membre est dévoué pour mettre en place la sanction à l'autorité de contrôle. Est-ce que ce sera la Direction générale des finances publiques ou est-ce que ce sera une autre autorité ? Aujourd'hui, moult ONG... on parle et on souhaiterait parler de la crise et le risque juridique et réputationnel. Je ne sais pas si le 5 décembre 2023, La Poste, quand elle a été condamnée sur son non-respect concernant sa cartographie des risques, ou en tout cas son imprécision de sa cartographie des risques par rapport au devoir de vigilance, je ne sais pas si aujourd'hui, cette société, d'un point de vue réputationnel, elle en est très heureuse. Donc la question que je vais vous poser, aussi bien à Arnaud, on va donner peut-être la parole à Arnaud, c'est aujourd'hui on va avoir de plus en plus de grandes sociétés assujetties. Vous savez qu'en France, vous avez 280 entreprises qui sont assujetties au devoir de vigilance, 280, qui sont scopées d'ailleurs par les ONG. Et il y a un site où l'ensemble des ONG les suit et met en place leur plan de vigilance en disant c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Et ces ONG sont suivies. Donc la question, Arnaud, que je vais vous poser, c'est aujourd'hui, comment pouvez-vous, vous, VAE Solis, avec Maître Patrick Glugman, avocat pénaliste, comment aujourd'hui pouvez-vous accompagner ces sociétés dans le cadre d'un risque, qui est un risque de crise, risque réputationnel, financier, juridique ?
Arnaud.
Merci. La première chose à comprendre pour répondre à votre question précisément et pour s'inscrire quand même dans la logique des propos de Patrick et de la table ronde précédente, c'est qu'il faut comprendre que vous avez le risque juridique et, vous l'avez très bien dit, vous avez le risque réputationnel. Et aujourd'hui, pour répondre à la première question que vous avez posée, tous ceux qui sont impliqués dans leur vie quotidienne et professionnelle sur ces sujets-là doivent se poser la question de la mesure du risque et de l'ampleur potentielle d'une crise réputationnelle provoquée par une infraction des normes. Alors il y a les réponses juridiques, il y a les réponses réglementaires et normatives, tout ça c'est vrai, mais vous avez donné l'exemple d'une grande entreprise publique qui avait été condamnée pour une cartographie des risques qui n'était pas suffisamment précise, vous avez dit, je crois. Alors là, je trouve que c'est un exemple très intéressant parce qu'évidemment, vous êtes tous, on est tous confrontés à ce type de risque et donc dans l'accompagnement, il pourrait y avoir de savoir mieux identifier, recenser les risques, de mieux les qualifier. Aujourd'hui, les analyses de cartographie des risques, c'est fait par des gens qui ne connaissent pas le risque réputationnel. Donc nous, depuis 20 ans, on dit, notamment aux risk managers, parce que c'est souvent quelque chose qui est à la main des risk managers, il faut intégrer le risque réputationnel, car une infraction, c'est grave, une condamnation, ça peut être très grave, mais ça peut aussi passer inaperçu, car je serais assez intéressé de savoir qui dans la salle savait que la Poste avait été condamnée au mois de décembre 2023. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de gens. Dans cette salle, il n'y a pas de majorité de gens.
C'est une bonne question.
Donc, j'ai bien.
Pas de majorité absolue. Pas de majorité absolue.
Vous en sortez bien.
C'est à la mode.
Alors, vous en sortez bien.
Autant vous dire que dans l'opinion publique française, il n'y a aucune chance. Ce que je veux expliquer, c'est la dimension réputationnelle. Elle doit être prise en compte. Et tout ça n'est pas nouveau. Alors, on peut remonter à l'abbé Grégoire, on peut même remonter aux lois Le Chapelier, mais on peut revenir beaucoup plus récemment. La première crise du 21e siècle en France, c'est la crise de l'Erika. La crise de l'Erika, 2003, ce bateau échoue, et vous vous souvenez probablement les uns les autres de la réaction de Total Energy et de son président, Thierry Desmarais, qui est conspué dans la gestion de la crise réputationnelle de ce naufrage, d'un bateau qui n'appartenait pas à Total, d'une cargaison de pétrole qui n'appartenait pas à Total. Et d'ailleurs, toute la défense de Total s'est constituée autour d'une argumentation qui est « nous n'avons pas de responsabilité juridique ni de responsabilité d'ailleurs morale sur ce qui s'est passé ». Or, il se trouve que savoir que le bateau était affrété par je ne sais quel trader basé au Caïman ou je ne sais où, personne ne le sait, et puis tout le monde s'en fout. En revanche, s'attaquer à une entreprise qui a une réputation, qui a une visibilité, qui a un siège social en Île-de-France, ça c'est important, ça c'est, il y a un potentiel médiatique, et donc ça c'est ça qui fait la crise. Donc la crise, on est exactement dans le devoir de vigilance ou la responsabilité de la grande entreprise, c'était il y a 20 ans, il n'y avait pas de normes, mais néanmoins, l'opinion publique, le système médiatique a imposé à Total Energy quelque chose qu'aujourd'hui la loi impose. Mais on voit bien qu'il y a une traçabilité et il y a un historique. Donc, vous ne pouvez rien faire de pertinent, au-delà des aspects juridiques, si vous ne prenez pas en compte la dimension du potentiel médiatique d'une crise, y compris dans l'évaluation des risques que vous faites dans vos cartographies. Ça répond, je crois, à la question 2 et à la question
première. Oui, parce que vous n'avez pas répondu à la première question, évidemment.
Donc,
oui, pardon. Non, je suis pris.
Donc, la question que je vous poserai, c'est vous, en tant qu'expert aujourd'hui de la gestion du risque, est-ce que vous dites bien à vos entreprises, notamment sur le devoir de vigilance, puisque c'est le but de cette table ronde, aujourd'hui, quand vous faites une cartographie des risques, quand vous voulez appliquer la loi sur le devoir de vigilance, vous devez publier un plan de vigilance. Ce qu'on a dit en propos liminaire, à savoir aujourd'hui, les entreprises confondent, les deux rapports l'ont démontré, confondent reporting des déclarations de performance extra-financière, maintenant CSRD, et plan de vigilance. Est-ce que vous, en tant que prescripteur, en tant qu'expert, est-ce que vous leur demandez bien à chaque fois, vous devez faire une cartographie des risques, c'est inscrit dans la loi, cette cartographie des risques sur vos impacts santé, sécurité, droits humains, environnement, vont vous permettre, et avec les parties prenantes, parce que c'est inscrit aussi dans la loi, vont vous permettre de pouvoir établir un plan de vigilance qui va de fait vous éviter à devoir, ce qui se passe aujourd'hui avec Laurent Duquira de ces trois grandes sociétés qui se retrouvent aujourd'hui à la barre et dont on connaîtra le résultat dès 18 juin. Pour éviter cela, est-ce que vous préconisez à ces sociétés qu'aujourd'hui, cette cartographie des risques, elle est élémentaire pour établir un plan de vigilance?
En gros, quelle est votre stratégie? Patrick.
Ce dont nous parlons aujourd'hui, en fait, c'est un déplacement du risque. Traditionnellement, les avocats, ils défendaient leurs clients le plus tard possible parce que les droits de la défense, c'était avant tout de regarder l'accusation venir. Là, vous avez un pivot complet. On vous demande qu'est-ce que vous avez pris comme mesure préventive. Et on vous dit, vous ne pouvez pas ignorer même ce qui ne se passe pas chez vous et même ce qui se passe ailleurs. Et donc, c'est très simple. Le meilleur conseil que l'on peut et que l'on doit donner aux entreprises, c'est évidemment de ne pas attendre d'être scoré par les ONG. Elles le sont. Tous les plans de vigilance sont publiés et sont analysés par des ONG, même sur des sites dédiés, avant même les processus de mise en demeure d'action judiciaire. Le conseil que l'on doit donner, c'est d'être le plus proactif possible. Et le vrai bon conseil qu'on donne, nous, il est de deux manières. D'abord, s'il y a l'entreprise a besoin de se connaître elle-même, aujourd'hui, les cabinets d'avocats savent faire des enquêtes internes qui protègent l'entreprise, mais qui sont menées avec la même rigueur qu'une enquête judiciaire. Et ça, c'est des outils dont les entreprises doivent nécessairement se saisir dans le cadre du devoir de vigilance. Mais il y a autre chose. Moi, je dirais, c'est d'être en dialogue avec vos contreparties. Et plus vous bâtissez vos plans de vigilance en dialogue, parfois sous l'égide de médiation, ça protège votre confidentialité, avec vos syndicats. Je vous rappelle que le demandeur dans l'affaire de la Poste, c'est un des syndicats. Avec les ONG, on les connaît, celles qui ont agi. Et ben, plus vous êtes en dialogue sur « regardez ce que je fais, regardez comment je le fais », et plus, même ceux qui ne veulent pas, vous allez les chercher pour dire « vous voyez, je vous ai demandé de regarder ce que je faisais, vous n'avez même pas voulu vous asseoir à ma table », là, vous changez complètement le spectre et la manière dont sont appréhendées les choses. Donc moi, je vous dis ce que je crois profondément, il ne faut pas regarder les normes comme un météorite qui va s'écraser sur nous, parce que si vous le regardez comme ça, il va finir par s'écraser sur vous. Il faut être proactif, le plus proactif possible, en vous dotant de tous les outils, de l'enquête interne à la médiation avec les parties prenantes, pour sécuriser votre entreprise, votre réputation, votre cycle de production et de vente. Et à la fin, si vous faites ça, vous êtes plus fort, plus agile et donc meilleur que vos concurrents.
On posera la question à la salle juste après. Mais Arnaud, réponse. Ça marche pas ? Il faut couper, voilà.
En complément.
Non, l'autre. Non. Voilà. Jour, nuit, jour, nuit.
En complément de. Ça marche. En complément de cela, je dirais que la plupart des crises récentes ont une certaine déconnexion avec le fait générateur de la crise, et l'impact et la puissance de la crise est provoquée par la mauvaise gestion de la crise. Dans la mauvaise gestion de la crise de la part d'une organisation, il y a sa réaction, il y a son absence de réaction, il y a sa lenteur à réagir, mais il y a surtout, surtout un phénomène qui est de ne montrer qu'on n'a pas su anticiper. Car ce que dit Patrick à l'instant, c'est en fait une forme d'anticipation. Donc ça veut dire qu'on n'a pas su se préoccuper et montrer son attention à vouloir à la fois éviter un problème et à la fois corriger un problème. Et aujourd'hui, quand vous regardez les 10-15 dernières années, les grandes crises médiatiques, et c'est là que je vais vous tenir un propos qui à la fois va inquiéter ceux qui étaient inquiets et rassurer ceux qui étaient déjà à peu près rassurés, c'est que contrevenir à une norme ou une règle, ça peut ne pas provoquer une crise, ça va vous provoquer des problèmes. Des problèmes du quotidien, de la vie, des affaires. Mais ce n'est pas forcément une crise. Et ces problèmes, ils vont exister, d'autant plus qu'il y a des nouvelles normes et qu'à chaque fois qu'on bâtit des normes, on expose tous les acteurs et les entreprises, et c'est vrai dans notre domaine d'aujourd'hui, mais c'est vrai dans les domaines de la pollution, par exemple. Aujourd'hui, les normes de pollution des nappes phréatiques n'est pas du tout le même aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Donc, il y a 25 ans, il y a des entreprises qui faisaient qui émettaient des polluants et qui n'étaient jamais attaquées. Aujourd'hui, les normes ayant drastiquement baissé, c'est assez facile de franchir les normes et donc d'être exposé à un risque de crise et réglementaire, et légal, et médiatique. Bon, ceci étant dit, une fois que ce phénomène arrive, ce n'est pas forcément ce que j'appelle une crise. En revanche, vous avez des crises médiatiques très puissantes qui vont avoir des effets très puissants, à la fois sur vos salariés, à la fois sur le chiffre d'affaires, la rentabilité de l'entreprise, sur vos partenaires, sur vos clients, donc avec des impacts très, très, très puissants, dont le fait générateur est relativement ténu, voire faible, mais c'est la réaction à cet événement qui est survenu qui pose le problème. Donc pour cela, il est impératif d'avoir des systèmes de prévention, d'anticipation, dont vous pouvez, le jour où un événement survient, faire la démonstration que vous avez tout mis. On ne vous reprochera jamais d'être passé à côté, d'avoir mal maîtriser le sous-traitant d'un sous-traitant d'un sous-traitant, pour reprendre la formule de tout à l'heure. Mais en revanche, de ne pas vous être donné les moyens d'avoir vérifié que le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant avait fait ceci ou était cela ou était conforme ou était compliant, ça, on vous le reprochera. Donc ça, c'est vraiment le point important. Puis j'ajouterai, cerise sur le gâteau, que quand on a des dispositifs de prévention très sérieux, eh bien, en fait, on diminue drastiquement le risque d'occurrence d'un problème. Donc, parce que ça diffuse une culture interne dans l'entreprise, que ça fait évoluer les comportements, comme le disait Patrick, et que, par ailleurs, ça provoque des modes opératoires dans l'entreprise qui diminuent drastiquement l'exposition au risque.
Merci, Merci Arnaud. Avant de refermer cette table ronde, est-ce qu'il y a des questions à nos deux spécialistes, monsieur, très rapidement? Avec un micro, ou alors, ben voilà, vous avez parfaitement compris comment ça marchait. Et je vous en félicite.
Bonjour à tous. Donc, je m'adresse à Maître Gluckmann, avocat. Donc, je suis juge honoraire, je suis président de l'Association des juges du tribunal de commerce des Pays de Savoie. Et à ce titre, comme juge commissaire, j'ai eu à traiter de dossiers franco-européens qui se sont souvent d'ailleurs traduits, comme vous l'avez évoqué d'ailleurs, par des transactions, par de la médiation, par de la conciliation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour travailler avec le Conseil national des grèves des tribunaux de commerce français, dans le cadre de mes nouvelles missions, donc on peut s'apercevoir très facilement qu'il y a aujourd'hui un très gros travail à faire. Même si la France est pionnière, comme vous l'avez dit, en matière de droit des affaires, en matière de droit commercial et de procédure, nous sommes dans un désordre européen qui demande à être corrigé. Le travail que je fais avec le Conseil national des grèves du tribunal de commerce consiste à essayer de travailler sur l'harmonisation, la coordination du droit des affaires partout en Europe. Et la difficulté pour un juge, lorsque j'étais juge commissaire et que j'étais nommé dans des affaires franco-européennes sur des dossiers de la nature de ceux que vous avez évoqués, c'était très compliqué. Parce que ce qui se passe en France, même si c'est effectivement un droit commercial particulièrement performant, nous sommes loin du compte en Europe, et d'ailleurs ça rejoint les difficultés internationales en la matière. Les trous dans la raquette, c'est à la fois abîmé, mais c'est réparable. Votre point de vue, maître ?
Patrick.
Ce qui est sûr, c'est que l'article 225, 102, 4 et 5 donc, du Code de commerce, qui prévoit le devoir de vigilance, c'est une hybridation parfaite du droit. C'est à la fois une sorte de droit pénal, réglementaire, environnemental qui vient se nicher dans le droit des sociétés, dans le code de commerce, et dont la responsabilité, c'est la responsabilité civile de droit commun. Donc c'est sûr que pour les juristes un peu orthodoxes, ça défrise. Néanmoins, c'est plus on met les droits fondamentaux au niveau des justiciables, plus en fait on rend les justiciables performants à la fois en termes de mise en cause, mais de défense également. Regardez, la révolution juridique la plus importante de ces 20 dernières années en France, et elle concerne vraiment tous les citoyens, y compris évidemment les citoyens entreprises, c'est évidemment la question prioritaire de constitutionnalité. aujourd'hui, tous les jours, des citoyens, devant toutes les juridictions, invoquent des questions de nature constitutionnelle, questionnent les traités internationaux. Bon, ben, qu'est-ce qu'il est demandé à l'inverse aux entreprises à partir de maintenant ? C'est exactement la même chose. Et l'adoption de la CS3D, elle dit en plus, voilà, maintenant, vous, entreprises européennes, d'un certain seuil, l'accord de Paris, ce n'est plus un truc qui est écrit quelque part. L'accord de Paris, vous allez nous montrer comment vous allez l'appliquer. Bon, les entreprises deviennent brutalement citoyennes, et c'est effectivement, dans le moment qu'on vit, qui est le moment... transitoire, c'est extrêmement violent, c'est parfois injuste, mais c'est une phase transitoire, et encore une fois, l'œuvre prétorienne va arriver, et on va avoir de la jurisprudence et des bonnes pratiques, et tout ça, finalement, va fabriquer de nouvelles normes et de nouveaux comportements.
Merci Patrick. Une dernière question, monsieur ? Ou alors, voilà, vous...
Oui, excusez-moi de vous tourner.
C'est pas grave, je vous pardonne. Ah, là, ça ne marche plus. Appuyez. Non, c'est mieux pour que tout le monde comprenne.
Frédéric Nau, direction juridique du groupe de La Poste. Là, ce que vous en dites, ce que vous... Alors,
on vous avait pas vu encore,
on
monsieur.
On se connaît assez peu dans le propos, parce qu'on est une grosse entreprise, avec quelques milliers de sous-traitants dans le monde entier. Votre propos m'amène à deux interrogations. La première, c'est qu'on est dans un monde totalement original. La France, avec l'Allemagne et les Pays-Bas, sont les seuls pays à connaître, à avoir un peu de recul sur ce qu'est le devoir de vigilance en tant qu'outil social, en fin de compte. Or, aujourd'hui, ce qui va faire cette législation, c'est le reste de l'Union. Et donc, on a une véritable interrogation, mais qui est politique et même presque culturelle. Est-ce qu'on va se presser à vouloir transposer cette loi pour être le premier parmi les premiers, ou est-ce qu'au contraire, on va laisser les autres le transposer avant nous pour voir comment ils vont se saisir de cette question, quitte à faire, nous, en retour, évoluer notre propre législation, mais de façon à parvenir à des règles communes à tous. Et c'est vrai que la façon dont la France est soit volontariste ou pas sur le sujet est très intéressante sur le plan politique et social. Le deuxième point, c'est que vous parliez de la façon dont l'entreprise doit se saisir de cette question. Ça marche aussi bien vis-à-vis des ONG que des syndicats quand vous avez des interlocuteurs qui sont constructifs. Or, les ONG ne le sont pas. Et les syndicats ne sont pas davantage. Enfin, dans l'entreprise, chacun défend ses intérêts, et je n'ai jamais vu, alors c'est un jugement de valeur, mais j'ai peu vu des syndicats qui soient intéressés dans l'intérêt du groupe à faire évoluer une politique, si ce n'est pas celle de leurs adhérents. Et lorsque Sud saisit le tribunal judiciaire, il le fait naturellement à des fins de communication interne. Donc c'est vrai que l'application de la loi suppose un dialogue qui n'existe pas aujourd'hui. Dernier point, et là aussi votre réponse m'intéresse, vous parliez de la Cour d'appel de Paris. On est dans un contexte où le juge va être saisi de dossier sur l'application d'une loi de 2017, mais où il aura naturellement à l'esprit, sur le côté droit, la directive. Et donc, comment, dans les 2 ans qui viennent, délai de transposition, il va appliquer la loi d'hier, en ayant à l'esprit ce que sera la loi de demain, et en sachant effectivement que le décret d'application qui n'a jamais été pris et que vous évoquiez ne l'a jamais été parce que le gouvernement n'a jamais voulu. En d'autres termes, lorsque la loi de 2017 est élaborée, on en a parlé avec ses auteurs, il était dans l'esprit même du président de la République que la loi ne trouve pas à s'appliquer. C'était un élément de communication politique. Ce qui explique effectivement à la fois la généralité des termes et l'absence de décret.
Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Réponse très courte parce que nous sommes très en retard, Patrick.
Très courte. La Poste, elle a été traitée injustement, puisque je vous rappelle, ça n'a pas été dit, mais d'abord, c'est frappé d'appel. Ensuite, elle a été mise en cause sur les premiers plans de vigilance qu'elle a créés, et elle a été évidemment pionnière dans l'application de la loi, et effectivement par un syndicat qui n'est pas reconnu pour sa manière de dialoguer. Moi, ce que je dis simplement, c'est que quand vous forcez, entre guillemets, c'est pour ça que je vais parler de médiation, les parties prenantes à entrer en discussion avec vous, sous le contrôle parfois même du juge, la médiation elle peut être encadrée par le juge, c'est beaucoup plus difficile pour eux, après, de venir dire, regardez, il manque si ou ça dans le plan de vigilance, en l'occurrence, la Poste était on lui a dit que son plan de vigilance était incomplet, je crois, pour des sous-traitants. Donc, moi, je pense que la loi, elle a créé aussi une obligation de dialogue et que les entreprises, elles doivent s'en saisir et que c'est une arme très difficile à maîtriser pour les parties prenantes les plus radicales. Et d'ailleurs, C'est comme ça qu'une grande entreprise avait gagné sa première affaire. Elle avait montré qu'une ONG en particulier s'était assise à la table des négociations et l'avait quittée aussitôt et qu'elle n'avait pas rempli son obligation de discussion préalable. Donc moi, je dis, saisissez-vous aussi de cette obligation soft qui est de forcer, d'entamer ce dialogue. Et plus vous montrez que vous êtes en position de dialogue, et plus les parties prenantes radicales qui ont besoin de communiquer vis-à-vis de leurs adhérents ou de l'extérieur seront en difficulté. Je ne disais rien d'autre. À part ça, maintenant, on a une nouvelle cour d'appel, on a un nouveau juge. Alors, ce qui se dit ici, de ce que j'ai entendu, ce sont les plaidoiries qui ont eu lieu il y a quelques jours avec effectivement Total, Suez et EDF, les trois premiers dossiers. Les ONG disent respecter les normes fondamentales et les avocats des entreprises disent oui, mais si on faisait du droit, c'est bien aussi. Donc, l'audience, elle ressemble à ça. Vous avez maintenant une cour qui est saisie. Moi, je pense qu'encore une fois, on va être pionnier. On aura un droit positif en avance. On aura des juges formés. C'est un avantage. Je ne vois pas que le juge, surtout au niveau de la Cour, puisse, on ne va pas adopter la directive par anticipation, mais on aura des magistrats formés, on aura une jurisprudence avant tous les autres, et c'est quand même le début de la sécurité juridique qui arrive pour la Poste comme pour tous les autres.
Merci